Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, et bien sûr de très belles fêtes de Noël, puisque ben voilà, on s'en rapproche. Bonnes vacances à toutes et à tous, et je suis très heureux de vous retrouver avec une voix un tout petit peu cassée. Vous savez que 90% des Parisiens sont à peu près dans le même cas que moi, donc voilà, j'ai essayé de ne pas trop contaminer tous ceux qui sont autour de cette table. En tous les cas, dernier De quoi je me mêle de l'année, avant un petit break, et on reviendra tout début janvier pour un De quoi je me mêle qui démarra sous les chapeaux de roue, puisque nous serons au CES de Las Vegas. Voilà, tout ça est plutôt alléchant. Pour ce dernier De quoi je me mêle donc de cette année 2022, écoutez, on va pas faire compliqué, on va faire une petite rétro de toute l'actu tech de ces derniers mois. On a pas mal de choses à dire. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission sur Twitter. De quoi je me mêle que vous retrouvez le week-end donc sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne Tech & Co et sur la chaîne YouTube. Merci d'être là et bienvenue. Et à mes côtés, pour ce De quoi je me mêle exceptionnel, Mélinda d'Avansoulas. Bonjour Mélinda.
Bonjour François.
Montre-nous ton beau pull.
Hey, c'est l'esprit de fête ou pas?
Ah bah oui.
C'est Noël. Je t'ai un peu obligé pour la dernière. Je suis désolée de vous infliger ça.
Il est très très beau.
Il faut le décrire pour ceux qui nous écoutent.
Bien sûr, pour ceux qui sont avec nous en podcast.
C'est mon pull de Noël, le Stitch.
Il est trop mignon.
Il est quand même mignon. C'est dommage de ne pas avoir l'image. Hein,
oui, c'est vrai.
Il te va très bien.
Mais n'exagérons pas quand même.
Voilà,
merci, je prends le compliment.
Le pull de Noël Stitch. Bon, en revanche, l'élégance toujours incarnée pour Anthony Morel.
Bonjour François, merci. Voilà. Bon, écoute, j'ai bien fait de venir. Moi, je n'ai pas de pull, j'ai un t-shirt.
Ouais, mais il est très, très beau ton t-shirt.
Très mignon aussi.
Dessiné par un de nos auditeurs.
C'est vrai?
Mais oui, bien sûr.
Génial, ça.
Exactement.
Il y a des auditeurs
qui m'envoient des t-shirts maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a un auditeur qui est designer. Il m'a fait des magnifiques t-shirts, donc très stylés. Celui-ci, c'est Goldorak.
C'est Goldorak, oui.
Il m'en a fait un autre Naruto et deux ou trois autres comme ça. Ils sont absolument canons. J'ai plus son nom, sinon je l'aurais donné. J'aurais fait un peu de pub, mais j'ai plus son nom en tête.
Bon, c'est pas grave. En tout cas, bravo, parce que c'est très joli.
Ils sont très beaux.
Et Nicolas Lelouch, qu'on retrouve pour cette dernière de quoi je me mêle. Salut Nico.
Salut, je suis ravi d'être ici, de vous retrouver pour cette dernière de l'année.
Voilà, pareillement, Nicolas, que vous retrouvez. Sur Numérama. Alors, bon, l'actualité de l'année, j'ai envie de dire, ça va être un peu compliqué parce que, évidemment, il y a énormément de sujets. On a 52 minutes, donc on attaque tout de suite avec, le thème incontournable, c'est Elon Musk, qui est sans doute la personnalité de l'année, qu'on peut adorer, qu'on peut détester, qu'on peut adorer un jour, qu'on peut détester le lendemain. C'est ça qui est incroyable. Ce gars-là est complètement incroyable.
Voire d'une heure sur l'autre.
Oui, c'est ce que j'allais dire, d'une heure sur l'autre.
Voir les deux en même temps.
C'est vrai, c'est vrai. D'un côté, on ne peut que s'incliner devant son génie. C'est cool, parce que mine de rien, en 2022, il a quand même réussi en quelques semaines à racheter Twitter. Et puis d'un autre côté, on a envie de lui dire, mais stop quoi, avec tout ce qu'il fait d'incompréhensible. Donc, on va commencer par ça. On va prendre le temps de revenir sur un peu tous les épisodes de cette année 2022, commençant Elon Musk, en se concentrant sur Twitter. Tout ça commence donc en mars, rappelez-vous, mars 2022. Petit à petit, Elon Musk achète des actions Twitter, des parts de Twitter en quelque sorte, pour monter jusqu'à 9%. Et un mois après, il dit « Ok les gars, ça y est, je suis prêt, je veux racheter Twitter ». Voilà, là on est en avril et on a tous la mâchoire qui se décroche en fait. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive.
Oui, Nico. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'était pas forcément le but initial. Et c'est ça qui est encore plus fou dans cette histoire. On a pu le lire, vous savez, on va en reparler à travers cette émission, mais il y a eu un procès, il y a eu plein de choses, il a failli avoir une grosse guerre entre Twitter et Elon Musk. Et ce qu'on a appris, c'est que Elon Musk, cette envie d'acheter Twitter, ça part sur un coup de tête et sur une discussion avec ses amis. On a récupéré des échanges SMS entre Elon Musk et son entourage, où son entourage et lui débattent du bannissement de Russia Today des télés européennes, de Twitter, des réseaux sociaux. Elon Musk se dit complètement choqué par ça et dit que voilà, c'est pas parce qu'il est contre ce que dit Russia Today que Russia Today devrait être interdit. Et ses amis lui disent oui, si t'es pas content, t'as qu'à racheter Twitter, comme ça on a qu'à changer ça.
Il fallait pas dire ça.
Allons-y, je vais le faire. Et il dit ça à la base sur le coup d'une blague. Il commence à y réfléchir. Je crois même qu'il fait un tweet pour demander est-ce que je devrais participer dans Twitter ou est-ce que je devrais lancer un concurrent de Twitter. Et il pose la question à ses fans, c'est attention, votre réponse va avoir une grosse un gros impact sur mes décisions futures. Et quelques semaines plus tard, on apprend qu'à ce moment-là, il a racheté en effet 9% de Twitter. Il devient donc l'actionnaire numéro un en termes de parts, hein, il n'est pas majoritaire du tout. Twitter lui propose de rejoindre son conseil d'administration. Il dit oui. Au début, il a l'air de vouloir négocier, ce qui laisse entendre. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, qu'au départ, Elon Musk ne veut pas du tout racheter Twitter. Il se dit, bah voilà, j'ai de l'influence dans cette entreprise, je vais rejoindre le conseil d'administration, on va m'écouter, je vais changer les choses et tout se passe bien. Et puis, tout ne se passe pas comme prévu pour lui. Il se dispute notamment avec Parag Agrawal, qui est le PDG de Twitter.
Et il refuse d'arriver au conseil d'administration à ce moment-là.
Il refuse du coup le conseil d'administration et il lui envoie un message, ça aussi on le sait grâce au procès, où il lui dit, voilà, tu as voulu jouer contre moi, qu'est-ce que tu fais toi de tes journées pour changer le monde ? Pour la peine, voilà, je ne rentrerai pas dans ton conseil d'administration et je t'annonce que je vais racheter Twitter à 100%. Et voilà, là, un bras de fer commence. C'est clairement son ego qui a joué sur cette partie-là. Et on se retrouve quelques mois plus tard avec Elon Musk à la tête de Twitter en train de tout détruire jour après jour.
Il en veut à Twitter. Il en veut clairement à Twitter, à ce que ça représente, à l'institution, je serais tenté de dire. Twitter, il est persuadé que c'est le paradis des woke, que c'est le paradis de la gauche américaine. Enfin, tout est contre lui si on l'écoute sur Twitter. Mais je pense qu'il est comme Trump à une époque, il ne peut pas s'en passer. C'est une drogue pour lui, Twitter.
Absolument.
Il a besoin de donner son avis sur absolument tout et surtout ce qu'il ne maîtrise pas comme sujet, mais toujours pour susciter du retweet. Il s'en sert vraiment comme un miroir égocentrique. Il faut qu'on l'aime. Le problème, c'est qu'il arrive dans une entité où rien ne lui correspond. La façon de fonctionner en interne ne lui correspond pas. Je pense qu'il a aussi refusé le conseil d'administration pour la simple et bonne raison que chez Twitter, il y a quelque chose qui a été instauré par Jack Dorsey, donc le fondateur, qui est que tous les employés ont le droit de demander un Q&A, donc un question-réponse, à n'importe quel cadre de l'entreprise. Donc, tous les membres du conseil d'administration peuvent être soumis à ce Q&A. Il faut demander. Ils l'ont demandé à Elon Musk. Au moment où il était question qu'il entre au conseil d'administration, il a refusé. Et de fait, en refusant ce principe de base du fonctionnement de Twitter, qui est énormément basé sur l'échange, il se mettait déjà en porte-à-faux avec le fonctionnement. Donc rien ne va. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, il éclate tout le monde, il explose le conseil d'administration.
La relation était très forte avec Parag Agrawal.
Et c'est aussi ce qui ne lui convenait pas dans Twitter. Il a dit plein de fois que Twitter allait trop lentement, que c'était une entreprise qui prenait les décisions vraiment n'importe comment.
Il n'a pas tort.
Et
c'est vrai.
Pour moi, il n'a pas tort. Et là-dessus, je vais évidemment critiquer énormément Elon Musk dans toute cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses pas bien qui ont été faites durant cette année. Mais au niveau de l'accélération et de l'envie d'avoir un calendrier rapide pour faire bouger les choses, rien à dire, c'est beaucoup mieux avec sa vision à lui. Mais le truc, c'est que ça dépend de ce qui est fait derrière et de ses convictions personnelles, et c'est là où il y a des limites.
Moi, c'est ma conviction, c'est qu'il excelle dans le chaos, Elon Musk. Et donc, il arrive et il met le bazar de manière totalement volontaire. Il l'a dit dès le début en arrivant, on va casser des trucs, on va tenter des trucs, des fois ça marchera pas, des fois ça marchera. Et c'est vrai que ça a été un choc des civilisations terrible parce que Twitter avait quand même ce côté un petit peu poussiéreux, c'est vrai, il y avait du mal à bouger. On ne sait pas quoi. Twitter, on voyait bien, il y avait ce réseau social qui avait toujours la même apparence depuis des années, les changements se faisaient à la marge, la monétisation n'arrivait pas. Et là, on a un Elon Musk qui arrive, choc des cultures totales, il vire les trois quarts des gens, il demande, vous vous souvenez quand même, le premier truc qu'il fait en arrivant, il arrive avec sa clique. Je dis bien avec sa clique, je choisis ce mot-là parce qu'il a pris des ingénieurs, son aréopage exactement, d'ingénieurs de Tesla, c'est fidèle, ils se créent leur petit état-major au sein du QG de Twitter et il fait, je relève les copies. Chers amis ingénieurs, vous allez m'imprimer tout votre code de ces 30 derniers jours et moi je vais regarder avec mes copains ingénieurs.
Imprimé en plus. Hein.
Imprimé, incroyable.
Il y a plein de photos avec school, les feuilles dans la main.
Et je vais regarder et je vais corriger et je vais voir qui est productif et qui ne l'est pas. Et sur cette base-là, entre autres, il va virer 50-75% des ingénieurs de Twitter. Enfin, c'est fou quand même comme méthode de faire. Tu te dis, alors, c'est ça. Moi, quand on parlait de love-hate ou de fascination et répulsion d'Elon Musk, c'est à la fois, je trouve que c'est génial qu'il arrive, qu'il mette un peu le bazar et qu'il essaye de réveiller, secouer un peu le cocotier dans cette entreprise, encore une fois un peu poussiéreuse, mais sur la méthode quand même, ultra violent quoi.
Je mets un bémol sur la rapidité et sur le côté. Alors, le côté poussiéreux, oui, c'est sûr. Il y a juste un truc, c'est que Twitter, c'est une entreprise mondiale dans le fonctionnement. Donc, il faut aussi adapter son fonctionnement à toutes les législations dans le monde. Lui, il arrive avec sa méthode américaine, je te vire tout le monde en 24 heures, je liquide à tout va, je fais des trucs, je reviens. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Il a eu des problèmes en Irlande où il a voulu virer sur un mail la responsable du bureau. Elle lui a dit « t'es gentil, Coco, mais ça ne se passe pas comme ça ici ». Il arrive avec ses méthodes américaines qu'il veut appliquer à tout. C'est aussi pour ça qu'il va vite et qu'il fait n'importe quoi et qu'il doit rétro-pédaler sans arrêt. parce que il n'a pas de vision mondiale du fonctionnement de Twitter.
Et tu te souviens du petit mail qu'il a envoyé à tous ses ingénieurs en lui disant maintenant va falloir bosser jusqu'au 100.
Oui, c'est ça.
Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous êtes d'accord, vous cliquez.
Vous avez 24 heures.
Si vous avez 24... C'est incroyable.
Ça, on le savait déjà d'avant qu'Elon Musk a une notion de productivité qui est très élevée. Pour lui, quand on travaille dans une entreprise, on doit donner sa vie à cette entreprise. On doit dormir dans l'entreprise. D'ailleurs, il a mis des lits dans certains des anciens bureaux.
En fait, il a un fonctionnement un peu militaire.
Il est contre le télétravail. Enfin, Elon Musk est convaincu que le télétravail, ça détruit la productivité en entreprise. Il veut que tout le monde vienne physiquement et que sinon, on n'a qu'à partir. Oui, pour lui, c'est un truc de feignant, sauf évidemment si on a une bonne raison valable, médicale, mais sinon, il n'en veut pas. Il a une notion de travail qui est extrêmement hardcore et je pense que Twitter, dans les entreprises de la Silicon Valley, était l'entreprise avec la vision du travail la plus européenne, entre guillemets, parce que c'était celle qui, justement, voulait respecter les employés.
Oui, bien sûr.
Et il y a plein de choses dans ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a expliqué. Il y a beaucoup d'employés qui n'étaient pas venus depuis plusieurs mois dans le siège parce que Twitter leur laissait un télétravail illimité. Et ça, lui, il ne supporte pas. Maintenant, tout est une question d'extrême. Twitter était un extrême, Elon Musk en est un autre. Et il n'y a peut-être pas un équilibre qui a été créé.
Jack Dorsey était le premier patron de la Silicon Valley à avoir autorisé le télétravail à vie. Enfin, faut dire qu'il a 6 mois de l'année au Kenya, donc c'était pas gênant pour lui. Mais c'était une entreprise, comme tu dis, le fonctionnement humain chez Twitter est extrêmement fort. La liberté de travail... Lui, il arrive, c'est quand même un mec qui gère des usines et qui gère de la fabrication. Donc, le télétravail, quand on travaille à la chaîne, c'est compliqué. Il a mis les pieds dans une quatrième dimension du travail.
En fait, il y a de la casse sociale, parce que aussi, je pense que Twitter avait un environnement social très généreux.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Très à l'écoute.
Et l'argument mis en avant, d'ailleurs, par les pro-Musk, c'est de dire, regardez, il a viré 75% des gens, mais ça fonctionne.
Ouais, mais c'est un argument idiot.
C'est un argument idiot.
Parce que le jour où il faut déployer une fonction et qu'il n'y a plus personne,
exactement.
Ça marche pas.
Tu as beaucoup moins de modération en termes de sécurité. On ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, tu vois, tu n'as plus qu'un mec qui gère toute la sécurité de Twitter. Personne n'en sait rien. Donc oui, pour l'instant, ça fonctionne, effectivement.
Il a viré tout le monde, quand même. Les postes importants pour un réseau social, il a quand même liquidé tout le monde.
Sachant qu'il y avait des gens à
Trust and Safety, il n'y a plus personne. Il y a quand même un problème, c'est qu'il a liquidé ce qu'il pensait être du superflu. Enfin, la modération sur Twitter, on sait que c'est quand même le problème numéro un depuis des années. Et honnêtement, pour avoir discuté beaucoup avec eux, ils bossent dessus. Mais enfin, il faut voir le déferlement de merde, il n'y a pas d'autre mot à dire.
C'est pas facile
à réaliser. Lui, il liquide, c'est le premier truc qu'il liquide quand même. Enfin, on est dans le...
Et sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un lanceur d'alerte, qui était l'ancien directeur de la sécurité de Twitter, qui avait écrit un long rapport sur justement les manquements de Twitter. Enfin, en gros, le fait qu'ils étaient déjà en sous-effectif sur plein de trucs, quoi, qu'il y avait des énormes failles en termes de sécurité informatique. Et d'ailleurs, Elon Musk avait repris à son compte ce rapport pour... ensuite refuser d'acheter Twitter, ce qui a eu toute cette logique. Voilà, il voulait plus racheter Twitter à un moment. Et maintenant,
on n'en a pas parlé on va pas revenir là-dessus parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Mais c'est vrai que il mettait aussi en cause le fait qu'il y avait énormément de faux comptes. Hein, des comptes robots sur Twitter, c'était ça aussi, ça a duré des mois. Hein,
c'est vrai que je pense que c'est un élément à prendre en compte dans pourquoi ce rachat ne se passe pas très bien ou pourquoi c'est aussi l'enfer ou autant le chaos en ce moment. C'est pas certain qu'Elon Musk avait vraiment envie de racheter Twitter sur la fin. Et ça part de ce coup de tête dont on parlait en début d'émission. Il a proposé de le racheter comme ça. L'offre a été acceptée, 44 milliards de dollars quand même, il faut le rappeler. Ouais. C'est immense et c'est beaucoup trop par rapport à ce que valait réellement Twitter. Et derrière, il a passé des mois à tenter de mettre la misère à Twitter. Twitter l'a attaqué en justice pour le contraindre à honorer sa promesse de rachat. Et il a fini par accepter parce qu'il s'est rendu compte que s'il refusait, il risquait peut-être de prendre une amende aussi grosse que le rachat et de ne pas avoir Twitter derrière. Donc il a dit qu'il le prenait. Sauf que là, ses motivations actuelles sont très différentes de celles qu'il avait en avril. Parce que maintenant, il part du fait, voilà, c'est une boîte qui pour moi ne fonctionne pas bien, donc je vais tout défoncer pour essayer de la sauver. Moi je pense qu'il veut vraiment la sauver, mais il n'est pas arrivé dans le cadre idéal qu'il avait souhaité initialement.
Il veut la façonner à sa façon, c'est le cas de le dire, parce que le problème c'est que je pense réellement qu'il n'en voulait pas. C'est un homme d'effet d'annonce, donc faire des petites phrases sur Twitter pour dire tout et n'importe quoi. Enfin, il avait commencé ses sondages bien avant aujourd'hui, déjà à l'époque, avant en utilisateur lambda il en faisait. Je pense vraiment qu'il s'est piégé lui-même. Apparemment, Jack Dorsey lui avait soufflé l'idée parce qu'ils sont très potes, alors que quand on voit le fonctionnement, c'est quand même le jour et la nuit.
C'est pas les mêmes personnes.
Cette
amitié m'étonne vraiment.
Et ce fonctionnement, j'ai envie d'aller voir Jack Dorsey et lui dire, mais c'est là ce qui se passe chez Twitter, comment vous le prenez? Mais je pense qu'il n'en voulait vraiment pas de Twitter. Et pour lui, c'est un boulet, déjà parce qu'il a dû prendre des fonds de gens. Il a dû se mettre avec des gens. Les 44 milliards ne sortent pas de sa poche uniquement. Donc il a aussi ça sur le dos. Ça lui coûte Tesla en ce moment.
Oui, l'action s'est effondrée
de 60% depuis le début de l'année. Les actionnaires l'ont rappelé à l'ordre la semaine dernière. Je pense que il vit pas très bien et c'est aussi pour ça qu'il fait n'importe quoi.
Après, Anthony, évidemment, tu pourras réagir, mais est-ce que finalement, bon, on est tous plus ou moins en train d'être à charge contre Elon Musk. Mais est-ce que il faut pas lui laisser aussi le bénéfice du doute et il faut quand même voir ce qu'il a fait auparavant, Elon Musk.
Oui, à mouche, mais c'est.
Je veux dire, on est en train de finalement dans la frise chronologique de sa carrière entrepreneuriale, on est sur un pouillème de ce qu'il
ça ne retire rien.
Et peut-être qu'il a une stratégie qu'il n'a pas envie de nous présenter. Peut-être qu'il n'en a pas. On ne sait pas, en fait.
Oui.
Mais moi, je trouve qu'il faut quand même regarder un peu son parcours.
Je suis d'accord avec ça, moi.
Et se dire, pour l'instant, il a beaucoup plus d'actifs que de passifs. Hein. Il a fait des échecs, sans doute, comme tout entrepreneur, mais il a révolutionné le monde, ce gars-là. Donc, laissons-lui le temps de faire son ménage et de remettre à plat Twitter avec les soubresauts, avec tout ce que ça engendre et avec nos commentaires aussi, parce que évidemment, on suit ça au jour le jour. C'est peut-être d'ailleurs une erreur aussi. Nous, en tant que experts, entre guillemets, on suit ça comme ça, mais peut-être que dans 6 mois, on n'en parlera plus et on se dira, tiens, voilà, Twitter est devenu une super app, c'est top, il a réussi la transformation de Twitter. Donc,
il a donné un petit aperçu quand même de ce qu'il voulait faire. Il a dit, je veux justement faire une super app, c'est le mot que tu utilises,
oui.
C'est-à-dire une application beaucoup plus large, alors peut-être façon WeChat en Chine, c'est-à-dire qu'il va incorporer tout un tas de services à l'intérieur. S'il a cette vision-là, déjà, tu vois, c'est au-delà de simplement avoir un réseau social, une plateforme de communication aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à l'instant. Je pense qu'effectivement Elon Musk, déjà on n'est personne pour lui donner des leçons d'entrepreneuriat. Le mec, quand même, il a quand même fait ses preuves à 2 ou 3 reprises. Et je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes toutes les annonces qu'il fait, alors c'est vrai sur Twitter, mais c'est vrai sur toutes les autres entreprises qu'il dirige, il y a un truc qui va beaucoup plus loin que le simple produit technologique. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui est presque civilisationnelle, tu vois, sur tous les sujets. Là, sur Twitter, il était en mode, il y a un enjeu civilisationnel derrière le rachat de Twitter parce que ça doit devenir la nouvelle Agora, la plateforme de communication. Enfin, tu vois, il y a un enjeu qui est presque philosophique
bien
derrière.
Sûr,
c'est
évidemment.
Pas juste, je vais créer un produit et je vais le mettre au service des consommateurs. Et si j'ai 2 minutes pour aller un petit peu plus loin,
bien sûr,
en fait,
Tony.
Pour moi, il l'a fait à plusieurs reprises. Ça. C'est-à-dire que quand il te présente, par exemple, le nouveau robot Optimus, dont on avait pas mal parlé, là, tu sais, le robot de Tesla, robot à tout faire, robot majordome. C'est pas juste, je vais te présenter la nouvelle génération de robots aspirateurs un petit peu améliorés. Non, il te dit, il va falloir repenser la façon dont nous, les êtres humains, on va se positionner par rapport aux robots. Il va falloir réfléchir peut-être à un revenu universel parce qu'on va avoir 7 générations de robots qui vont être capables de faire plein de choses à notre place. Quand il dit on va aller coloniser la planète Mars, il dit on veut être la première espèce interplanétaire. Il faut qu'on repense notre place en tant qu'être humain dans l'univers. Quand il présente Neuralink, ses implants neuronaux, il nous dit c'est pas juste pour réparer les personnes handicapées, permettre à des personnes handicapées de marcher à nouveau, ce qui est absolument incroyable. C'est à terme, ça pourra nous permettre de rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc là encore, c'est la place de l'être humain par rapport à la technologie qui est en train d'arriver. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est pas juste un mec qui propose des produits et qui nous les fait acheter. Il y a une logique derrière qui est politique, économique, philosophique.
Et une logique qui nous dépasse parce qu'il est, sans doute, et ne le prenez pas mal, sans doute beaucoup plus intelligent que la plupart d'entre nous.
Je pense aussi, oui.
C'est ça, ce mec-là est un génie. Il doit d'ailleurs en souffrir hein, parce que voilà, on le qualifie d'Asperger. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, a une intelligence sans doute un peu différente de la nôtre et une manière de communiquer différente. On le voit. Enfin, je veux dire, on voit que ce gars-là n'a pas le même moule que nous. Mais en revanche, quelle fulgurance. Enfin,
c'est
incroyable.
Là où j'apporterais quand même un contre-argument à tout ça, c'est que déjà, Twitter, c'est pas Tesla, c'est pas SpaceX. Je pense qu'on peut avoir un parcours absolument impressionnant en termes de.
Oui, et se vautrer avec Twitter.
C'est un argument qui est utilisé par ses fans. Il a beaucoup de fans. C'est malheureux d'ailleurs, Elon Musk, qu'il a beaucoup de fans hardcore qui le défendent. Peu importe ce qu'il dit, certains justifient qu'ils le défendent parce qu'ils disent qu'ils rêvent d'aller sur Mars. Il y a vraiment une communauté qui rêve d'aller sur Mars et qui du coup le défend surtout. Moi, je pense qu'on peut être le boss des voitures électriques, qu'on peut avoir inventé des fusées qui sont capables d'atterrir toutes seules, d'être un pur génie comme on est en train d'en parler, tout en étant incapable de gérer une plateforme qui s'occupe de la modération, qui s'occupe de sujets politiques, qui s'occupe de choses qui sont finalement beaucoup plus dérisoire que des fusées et des voitures. Et je ne pense pas que c'est parce qu'il a réussi Tesla et SpaceX qu'il va forcément réussir.
Mais si tu veux...
Et j'ai du mal avec cet argument parce que c'est considéré qu'Elon Musk est intouchable.
Mais
c'est pas parce qu'il a réussi des choses qu'il est intouchable.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le juge à une période où en fait il est en train de tout casser, et c'est comme si demain, tu vois, on cassait l'immeuble ici, on venait en disant oh là là, c'est pas beau, c'est vraiment dégueulasse.
Il faut peut-être
attendre de juger sa stratégie dans 6 mois, 1 an,
mais
peut-être.
Sur la stratégie, peut-être, mais là, il ne fait pas que tout
peut-être
casser.
Peut-être pas, quand peut-être qu'il va se planter.
Quand il publie des théories complotistes d'extrême droite sans se remettre en question,
quand il décide
de bannir des comptes de journalistes parce que les journalistes sont critiqués, quand il promet, il y a un mois, qu'il ne va pas fermer les comptes qui suivent son avion personnel, et finalement, il change les règles de Twitter.
Non, mais ça, c'est sûr.
Les comptes qui suivent des avions à partir de maintenant sont interdits. Quand il interdit de parler de Facebook ou d'Instagram sur Twitter sur un coup de tête avant de changer d'avis, j'ai pas l'impression qu'on a quelqu'un avec une stratégie et avec un plan de la même manière qu'il avait pu en avoir dans le passé avec Tesla et SpaceX. On a quelqu'un complètement impulsif et qui ne comprend pas le fonctionnement des réseaux sociaux. La preuve, l'Union européenne lui dit qu'il ne respecte aucune loi. D'autres, les États-Unis aussi s'interrogent sur son fonctionnement avec Twitter. Il défend une liberté d'expression absolue qui ne peut exister qu'aux États-Unis, qui ne peut pas exister ailleurs et qui ne l'applique même pas lui-même vu qu'il pratique de la censure sur les choses qui le dérangent. Enfin, je pense vraiment qu'Elon Musk, et je suis quelqu'un qui admire Elon Musk depuis 10 ans. Je rêve d'avoir une Tesla, je suis fan de SpaceX, je suis fan de tout ce qu'il fait ailleurs.
Tu rêves d'avoir une fusée ?
Je rêve d'avoir une fusée. Non, mais évidemment, j'ai énormément d'admiration pour le parcours d'Elon Musk.
Twitter,
quand il a commencé à déclarer la guerre à Apple pour des raisons qui étaient complètement aléatoire, il n'avait pas l'air d'avoir énormément de sens dans ce qu'il disait. Tous ses fans étaient en mode « Oui, mais Elon, est-ce que tu vas lancer un téléphone ?» Et il a dit « Oui, si Apple m'embête, je lancerai un téléphone. » Et à partir de là, il y a eu tout le délire de « Ouais, si Elon Musk lance un téléphone, Apple est mort parce qu'il va lancer un téléphone qui se connecte à des satellites. » Mais ça, en fait, ce n'est pas possible technologiquement à horizon 10 ans. On pourra pas avoir Elon Musk lui-même dit que un téléphone connecté à son réseau Starlink aurait un débit 3G uniquement s'il est seul dans un horizon de je sais pas combien de mètres carrés. Donc c'est impossible en fait de concurrencer Apple avec des réseaux satellitaires et Google. Et le truc c'est que on a toujours cet argument de Elon Musk a inventé Tesla, il a inventé SpaceX, donc le sous-estimez pas, il peut tuer Apple, il peut sauver Twitter, il peut faire plein de choses. Peut-être, mais c'est aussi possible qu'Elon Musk se trompe complètement, qu'il ait fait une erreur en allant sur un terrain aussi politique que Twitter, qu'il ne devrait pas justement parler en permanence de sujets uniquement qui influencent un parti politique et qui accusent l'autre d'avoir fait du mal. En plus, c'est une vision très américaine des choses. Il n'y a pas que le Parti démocrate et le Parti républicain sur la planète.
Non, il
ne peut pas aussi se permettre...
Après, en fait, le problème, c'est qu'il est directeur, mais il est patron de l'entreprise, mais il est aussi citoyen. Et
il est utilisateur numéro un. Du coup, il donne
son avis en permanence. Il impose son avis. Il dit des choses que des études...
contredit.
Il y a plein de choses qui vont pas du tout dans ce fonctionnement. Et moi, franchement, j'ai un gros regret sur cette année 2022. Certes, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'Elon Musk est la personnalité de l'année 2022, toutes catégories confondues, d'ailleurs, et même pas que tech. Mais pour moi, il n'aurait jamais dû faire ça.
Cet épisode a un peu entaché sa...
Il a gâché son image.
Enfin, il y a encore un an, certes, il avait eu des sorties sur le Covid étonnantes, quand il y a eu l'histoire aussi. Je me rappelle plus dans quel pays où il voulait envoyer un sous-marin pour sauver des enfants. Il avait traité de pédophile. Il avait traité de pédophile.
Il
avait eu des histoires où on avait dit « Ah, c'est bizarre, il penche quand même d'un côté assez étonnant. » Mais là, en rachetant Twitter et en donnant son avis constamment sur la manière de dire des choses, pour moi, il est en train de détruire complètement son héritage et il est plus crédible. Et c'est trop dommage. J'aurais préféré qu'Elon Musk reste la personne qui veut sauver l'humanité avec des véhicules électriques, avec des voyages spatiaux et qu'il ne se mêle pas justement d'un sujet qui peut que le conduire à sa perte.
En tout cas, pour nous, journalistes technologiques... Moi, je dis merci Elon Musk pour 2022. J'espère qu'il sera pareil en 2022. Enfin, je veux dire, sans lui, franchement, si tu enlèves Elon Musk, on a vécu une année technologique assez fade.
Ah ouais, grave.
Il a tout fait.
Vraiment, parce que tu vois, on est dans un environnement un petit peu morose. Les grands groupes technologiques souffrent.
Bien sûr, on est plutôt
dans une logique de plans sociaux que d'innovation à tout va. On va parler du métaverse tout à l'heure. Bon, ça va pas très fort et tout. Et on a un mec quand même qui jour après jour, il délivre.
Il occupe l'espace. Mais c'est sa personnalité. Moi, là où je vous rejoins tous les deux, c'est que je pense que l'entrepreneur, le créatif. Il est hallucinant et on s'en souviendra pendant des années et des années.
Parce que c'est
un créatif. Twitter, c'est pas sa création. Et je pense que rien que ça, déjà, est un problème fondamental pour lui. Le problème, c'est que c'est un porte-voix et que sa voix, elle est un peu, là où je rejoins Nico, elle est quand même un peu borderline souvent. C'est quand même la personne qui est capable de balancer les Twitter files, qui est capable de balancer quand même des soupçons de pédophilie à son ancien responsable de la sécurité en disant « je dis ça, je dis rien ». On ne fait pas ça quand on est un chef d'entreprise, je suis désolée. Il est vachement puéril.
Mais je pense qu'il est sans filtre, en fait, ce gars-là.
Oui, mais à un moment...
Il est vraiment sans filtre. Et je pense que On essaie de le comprendre, mais...
Ouais, mais il a un poste clé, je suis désolée, à un moment, il faut
Il a lui-même fait la comparaison à Donald Trump et Kanye West en disant qu'ils étaient les trois mousquetaires, tous les trois. C'est pas des très bons éléments de comparaison, encore plus Kanye West aujourd'hui, qui lui-même fait bannir par Elon Musk. C'est pas une bonne solution d'être sans
filtre.
Pour
moi, ça va faire du tort à son image, pas sa créativité. Ça ne changera pas l'homme d'entreprise. En revanche, l'être humain va prendre très très cher là-dessus et il nuit vraiment à sa propre image là-dessus. Non. Peut-être qu'il s'en fout. Moi, je pense que là, ce qu'il fait comme sondage et comme truc, il s'en fout pas.
Moi, je dis, on peut pas rapidement.
Non, vas-y. On peut pas non plus lui reprocher ses positions politiques. Il a le droit d'être Trumpiste s'il veut, tu vois. Et je veux dire, d'une certaine manière, dans la Silicon Valley, ça fait un peu de bien aussi d'avoir pas que des gens qui sont ultra démocrates, machin et tout. Je trouve que c'est aussi, tu vois.
C'est la Californie. Hein.
Ah ben voilà, non, mais c'est ça. Donc, c'était aussi l'extrême inverse avant.
D'ailleurs, il le dit ouvertement, il fait pas partie de la case de la Silicon Valley. Hein. Il est maintenant au Texas.
Mais je pense même qu'il a envie. Il peut faire partir du siège de
Twitter.
Bien sûr.
Donc pour moi c'est aussi ça. Alors avec tous les excès que ça peut comporter, et t'en as noté quelques-uns, et je suis d'accord avec toi sur certains points, mais je trouve que aussi la Silicon Valley, t'as cette espèce de petit entre-soi. Disait woke tout à l'heure, et c'est un peu ça aussi, tu vois, ce truc, on sait bien voilà, vers qui il vote, ce qu'il pense, quelle idéologie il porte, et c'est bien aussi d'avoir un contrepoint, je trouve, d'une certaine manière, et d'autant que Musk, il s'en cache pas, tu vois, parce que avant, si tu veux, l'ancienne direction, ils étaient dans le sens inverse, mais c'était complètement camouflé. Là, Musk, au moins, il dit ce qu'il pense, il dit où il va. Voilà, moi, c'est pour...
et
moi,
mais l'ancienne direction, c'était camouflé, tu l'as dit. L'ancienne direction, elle prenait pas parti contre Donald Trump publiquement, au contraire, on oublie quelque chose, ils ont passé, Twitter a mis 4 ans à refuser d'agir sur le compte de Donald Trump, alors tout le monde leur dépression. Et là, aujourd'hui, Elon Musk raconte que Twitter a joué contre Donald Trump, que Twitter
c'est
a fait
récent, un complot. Les blocages.
Mais c'est faux.
C'est récent, les blocages de Twitter.
C'est pas du tout cette histoire-là.
Même avec les partis extrémistes, c'est très récent,
Et rappelons quand même qu'il a une de ses premières actions a été de dégeler tous les comptes de partis extrémistes qui ont été fermés. Donc il y a notamment des complotistes français qui ont fait beaucoup de mal pendant la crise Covid, dont le compte avait été fermé après des mois et des mois de modération, qui sont tous de nouveau actifs aujourd'hui, y compris des comptes néo-nazis aux États-Unis qui ont été réactivés au nom de la liberté d'expression.
Et qui sont tous certifiés Twitter Blue maintenant.
Je te dirais, pourquoi pas, on a le droit de faire ça si c'est la vision américaine de la liberté d'expression, pas si derrière on va censurer un compte parce qu'il a dit du mal d'Elon Musk.
Alors, c'est
la liberté d'expression n'est pas de vitesse, elle ne s'arrête pas là où Elon Musk se sent.
Il a des idées, moi aujourd'hui il a des idées, mais l'application elle est encore quand même ultra chaotique et surtout d'une heure sur l'autre...
Moi, j'espère une seule chose, c'est qu'Elon Musk va rapidement laisser la place à quelqu'un qu'il nommera. Je pense que ce sera quelqu'un qui pensera quand même comme lui. Oui. Mais au moins, ça permettra à l'homme qu'est Elon Musk de passer plus de temps sur Tesla et SpaceX et de, pour nous, de fermer
sortir
un peu plus
les yeux
sur cette
médiatique. Peut-être, mais le problème de ce gars-là, encore une fois, c'est qu'il est très impulsif et que voilà.
Ah, il lâchera jamais les rênes.
En fait, il écrit ce qu'il pense sans trop y réfléchir.
C'est Neuralink, tu sais, c'est le truc. Mais il a de la pensée au clavier.
C'est bizarre. C'est le patient zéro de Neuralink.
C'est bizarre qu'une personne de son intelligence soit pas capable de voir la différence entre un lien vers un site qui raconte une fake news et un vrai média qui fait une critique.
Mais je pense qu'il le voit. Il prend juste
pourquoi
celui
il partage
lui...
des faux sites alors
il prend celui qui lui convient.
Le premier jour à la tête de Twitter, il a partagé une théorie comme quoi le mari de la chef du Congrès américain avait été agressé. Il y avait eu une vraie agression, mais il avait accusé le mari d'être responsable. Alors tout était faux, hein, c'est un site d'extrême droite qui racontait ça, mais il ne s'est même pas accusé, il a juste supprimé le lien. C'est bizarre quand même.
En tout cas, 2023 s'annonce tout aussi passionnante que l'année 2022 pour voir où va emmener Twitter et Elon Musk, quoi. Ça va être
j'espère qu'il reprendra Tesla et SpaceX.
Mais c'est ça.
Au sérieux,
très rapidement. Je suis d'accord avec Pico. Moi, je veux autre chose.
Oui, parce qu'il y a d'autres défis.
C'est rigolo, tu vois.
Si Twitter disparaît demain, en vrai, je vais être un peu triste, j'y vais beaucoup, mais c'est pas grave. Si Tesla ou SpaceX disparaît, l'humanité perd quand même quelques années sur les
produits. C'est bien lancé aujourd'hui.
Mais aucun de ces services disparaîtra. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de hiérarchie et d'importance, les autres projets d'Elon Musk sont beaucoup plus importants qu'un réseau social qui permet à n'importe qui de donner son opinion sur un match de foot ou sur Miss France. Ça n'a pas d'intérêt Twitter en réalité pour la société, alors que les autres produits qu'il a créés...
Oui, mais ça n'a pas d'intérêt, mais ça a des impacts importants. Et je pense que Elon Musk est aussi conscient de ça. C'est-à-dire que c'est un outil médiatique aujourd'hui qui peut, on l'a vu, transformer des opinions, transformer parfois même des élections.
C'est une arme d'influence.
Et je pense que dans un certain sens, c'est plus important qu'un Tesla ou qu'un SpaceX.
Oui, mais est-ce que c'est son rôle?
Lui, en tout cas, il estime que oui pour l'instant. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'il prenne du recul. C'est pour ça que 2023 Ah oui. Ça annonce passionnant.
Mais moi, ouais, bref.
Bon, on pourrait en parler pendant des heures.
Oui, c'est passionnant. On voit qu'on est tous très intéressés par ce sujet.
Voilà, on a fait le tour.
Donc c'est le ballon d'or de la tech, on est d'accord.
Ouais, c'est complètement le ballon d'or.
Bon. On est d'accord.
Et il n'a pas fini de marquer d'ici le 31 décembre, c'est sûr. Ouais.
On revient dans un instant pour la deuxième partie de Quoi je me mail. Twitter, c'est fait, hein, on le range. Et on va attaquer les autres titres d'actu de cette année. Avec toujours Mélinda, Anthony et Nicolas, tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette année 2022 qui s'achève. Et bien voilà, c'est ce qu'on vous propose pour terminer cette année dans De quoi je me mêle avec Mélina Davansoulas, journaliste à la rédaction Tech & Co. Anthony Morel à BFM Business et à BFMTV.com, et puis aussi Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama. Donc, on l'a dit, on a fait Twitter, on a fait Elon Musk, on va maintenant s'intéresser à une deuxième star de la tech, c'est Mark Zuckerberg, qui lui alors a été peut-être un petit peu moins mis en avant. Il a vécu aussi des sueurs froides, hein, le pauvre, hein, tout au long de cette année 2022, avec une dépréciation de sa fortune qui fait mal. Hein.
Ah oui.
Sauf que lui, il n'a pas racheté Twitter, mais il a perdu des dizaines de milliards aussi.
Ah oui, oui. Il a perdu même, je sais plus, 100 milliards, non, c'est pas ça?
Ouais, il a perdu une grande partie de sa fortune.
Non, c'est Bezos qui a perdu 100 milliards, je crois. Je sais pas.
Non, mais il a perdu beaucoup de milliards.
C'est pas tout à fait de sa faute. C'est aussi parce que le contexte de la tech aux US est ce qu'il est. Hein. Voilà, toutes les boîtes tech ont décroché. Cela dit, lui...
Particulièrement Meta.
Particulièrement Meta, mais pas forcément qu'à cause du métavers. Il y a deux paramètres. Oui. Il y a donc le contexte technologique qui fait que ça s'est effondré. Il y a aussi la pub avec Apple qui serre les taux sur la vie privée et donc Meta souffre. Et puis donc il y a le métavers ces dizaines de milliards de dollars que Mark Zuckerberg injecte
10 milliards par an.
Ouais. 10 milliards par an pour imaginer en fait son internet du futur, son internet complètement révolutionné avec ses univers donc virtuels. Anthony, est-ce que tu penses que cette lubie de Mark Zuckerberg va se cracher?
J'espère pas. Moi, j'ai envie de continuer à y croire. Alors, je sais pas pour mes petits camarades, mais moi, je veux rester optimiste. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait promis au début. Pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est un euphémisme. C'est vrai que ce qu'on nous a montré jusque-là n'était pas incroyable. C'est vrai que ce qu'on nous a vendu au tout début, ou en tout cas,
incroyable.
C'était vraiment Ready Player One. C'est le film de Spielberg. Vous allez avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête. Vous allez retrouver dans un monde immersif, complètement fou. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, avoir votre maison, inviter vos amis, jouer à des jeux, aller à des concerts, travailler. Ça va révolutionner la façon dont on bosse, dont on se divertit, etc., etc. Et puis, en définitive, ce qu'on a vu jusqu'ici, alors plus précisément jusqu'à cet été, c'était des avatars qui ressemblaient aux Sims en moins bien. C'était vraiment pas incroyable. Des décors qui étaient vraiment pas fous non plus. Des domaines d'application qui étaient tellement faibles, notamment Horizon Work, était donc le monde du travail réimaginé à l'aune de la réalité virtuelle, que même les salariés de Facebook
ne l'utilisaient pas
et qu'on a dû en interne par un mémo leur dire bon bah les gars ce serait bien que vous l'utilisiez quand même parce que bon
vous bossez dessus
puis c'est le produit qu'on essaye de vendre au monde entier. Donc c'est dire à quel point c'était pas génial. Quand même, il y a eu cette fameuse conférence qui a eu lieu en septembre, octobre, je ne sais plus, la MetaConnect, où Zuckerberg a présenté son nouveau casque, je crois que tu as pu le tester, tu vas nous en parler, et a présenté aussi, au-delà du casque, le potentiel qu'il pourrait y avoir derrière dans les années qui viennent, avec notamment les avatars photoréalistes, avec l'idée de, à partir de quelques images, c'est assez dingue, en gros, à partir de quelques images, on va pouvoir modéliser ta tête de manière extrêmement fine, mais ils ont bien précisé que ça, ce n'était pas pour tout de suite, que ça allait être très compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre. Donc ça va prendre du temps. Moi, je trouve que la promesse, si celle-là est tenue, s'ils arrivent effectivement à tout miniaturiser, à nous faire des avatars photoréalistes et à nous vendre un environnement qui est un petit peu plus sexy, avec des applications un peu plus sexy que ce qu'ils ont présenté jusqu'ici, moi, je veux continuer à y croire. Voilà.
Ah, mais tant que c'est pas que juste Beat Saber, ça peut être sympa, hein. Le métavers.
Oui,
moi, je suis d'accord. Le photoréalisme de la, ça a été la touche finale, à l'aide d'un smartphone. On a quand même vu, juste en passant un smartphone autour de son visage sans bouger, on pouvait avoir un rendu complètement fou. C'est le truc qui m'a bluffé. Sinon, en effet, le début de l'année, je pense que même les Avatar Sims, c'était bien généreux. On était plutôt du niveau des Mi, première génération. Que...
Sans les jambes.
Sans les jambes.
Rappelons-le quand même.
Oui, parce qu'on a vu que les jambes, c'était quand même c'était une classe sociale quand même après. Hein.
Non, il y a une justification un sur les jambes. C'est toute la complexité de la réalité virtuelle.
C'était technologique. Moi, je suis une grande fan de réalité virtuelle. J'adore ça depuis le début. J'ai testé les premiers modèles, j'étais malade à mort, comme tout le monde avant de m'y habituer. Donc, je suis comme Otoni, j'ai envie d'y croire. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la vision à long terme d'Elon Musk ou pas. Je pense que Zuckerberg a une vision à long terme de ce qu'il veut, pour le coup. Elle part un peu pas très très bien, ça démarre pas fort. Et il paraît qu'en plus, en interne, c'est une telle lubie, comme tu dis, pour lui, qu'il met une pression à travers le monde sur tous ses employés pour que ça marche, ça doit marcher. C'est vraiment la folie, mais sinon il y a des têtes qui vont tomber dans tous les sens.
Il y a eu des démissions d'ailleurs de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent on ne peut plus discuter avec lui. Enfin, voilà. C'est ce qu'il dit.
Ouais, et puis une pression exacerbée par les résultats financiers. C'est-à-dire
aussi,
que il dépense des dizaines de milliards et il en perd des centaines.
Et on lui reproche justement
au bout d'un
de
moment,
faire une fixette là-dessus.
On peut imaginer qu'au début, sa stratégie, quand il a pensé à tout ça, Meta allait très très bien, mais ça a gagné énormément d'argent, ça a été une... Oui. La poule aux œufs d'or. Hein,
il a racheté Oculus.
C'est la base Oculus.
Et dans ce contexte-là, c'était peut-être malin de se dire, bon, allez, on sort de tous les trolls que j'ai, qui toutes les casseroles que j'ai sur Meta, pour partir sur un nouveau chantier qui n'a rien
à voir.
Je vais essayer d'inventer le futur du web, en quelque sorte. Parce que c'est ça, hein, mine de rien. C'est au lieu d'avoir un web en 2D, hein, bah, c'est un web en 3D. C'est-à-dire qu'on est dans le web.
Oui.
Alors, on schématise, mais l'idée, c'est ça. Mais Anthony, tu as testé, donc. Parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, malgré tout, tu as testé le nouveau Meta Quest Pro, qui est un casque qui est sorti en plus... en pleine tourmente,
c'est bizarre, enfin, le timing est raté.
Le timing n'est pas bon du tout, enfin voilà, même nous, pour l'avoir, ça a été un cauchemar,
alors que le service presse de Meta,
d'habitude, est plutôt compréhensif et tout. Nous, ça fait des mois avec Melinda qu'on essaie d'avoir un masque. Ouais.
Ah, mais ça a été la même chose pour moi, ça a été une complexité monstrueuse et ils ont
tellement tétanisés par les résultats financiers, par tout le bad buzz,
c'est leur faute.
qu'on n'a même plus accès à leurs produits.
Mon avis perso là-dessus, c'est que c'est leur faute et je pense que Mark Zuckerberg était détestable depuis plusieurs années et que cette année, il m'a fait un peu de peine. Parce que je suis convaincu que...
tout l'amour que tu as pour Elon Musk qui est parti.
C'est trop mignon. Cette année, je ne déteste pas Mark Zuckerberg parce que j'ai l'impression qu'il est extrêmement perdu dans sa manière de communiquer. Et ce que je vois justement avec ce casque Quest Pro, c'est que les intérêts de la technologie de réalité mixte, réalité virtuelle, sont de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus prometteur, notamment le suivi, on parlait des avatars photoréalistes. Le Quest Pro, il introduit grâce à des capteurs le suivi du visage et des yeux.
Ouais.
Donc du coup, quand on est dans une application, on peut bouger ses yeux, regarder un endroit
précis. Et donc ton avatar bouge les yeux en même temps.
Super bien. Moi, ce que je pense...
Mais tu l'as testé avec des applis et tout, qu'est-ce que ça donne ?
Je l'ai testé, mais il n'y a pas beaucoup d'applis qui gèrent ça en fait aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai testé, c'est la réalité mixte. Et par exemple, un usage
que je trouve
exceptionnel...
Est-ce qu'il est meilleur que le Quest 2 qui est sorti il y a 3 ans ?
Il n'est pas meilleur pour la réalité virtuelle, c'est un peu dommage d'ailleurs. La qualité de l'écran n'est pas meilleure. Par contre, là où il est meilleur, c'est que j'ai un usage que j'adore. Faire des cours de sport en réalité mixte, on a le casque sur la tête, on voit son environnement et j'ai le cours qui est projeté en face de moi avec un écran qui suit ma vue. Donc si je m'allonge pour faire des abdos, c'est sur le plafond.
C'est ça, ouais.
Ça, c'est génial, en fait.
Et t'arrives à faire du sport avec ce truc sur la
tête.
Oui,
il va falloir encore affiner le produit parce que c'est un peu lourd et ça fait mal à la nuque. Mais bon,
ça muscle la nuque.
Après, voilà, ça muscle la nuque. Je pense qu'il y a un effet, on peut
Nico,
le voir comme
dans
ça.
Nico, dans quelques mois, il aura...
musclé la
dernière fois.
Il
a pas musclé de France.
Tu sais, comme la WWE, les mecs là qui se...
Ah oui, les catcheurs.
En tout cas, ça, c'est un des usages intéressants. Il y en a plein d'autres, en réalité mixte, qui sont intéressants. La possibilité de projeter. J'ai travaillé pas mal. J'ai passé plusieurs heures à travailler avec le casque sur la tête. Donc, en gros, j'ai mon Mac devant moi, sauf que l'écran de mon Mac est éteint et j'ai trois écrans de 75 pouces qui sont projetés au milieu de ma vision. Donc quand j'ai un collègue qui arrive, je le vois, je peux lui parler, mais en même temps j'ai mes écrans. Si je regarde ailleurs, les écrans disparaissent. Si je regarde mon ordinateur, les écrans apparaissent. Franchement, c'est super intelligent. Le problème, c'est que tout ça, est-ce que vous l'avez vu dans la communication de Meta ?
Je suis
parce qu'ils ne communiquent que sur cette idée de métavers, que sur cette idée de monde 3D où on fait des balades avec des avatars. Ils ont une stratégie que je trouve complètement ridicule à titre personnel, c'est nous vendre des choses qui cartonnent sur le web 2D en nous disant on les met en 3D, du coup vous allez aimer. On nous dit il va y avoir des chats virtuels, il va y avoir du basket virtuel, il va y avoir des jeux virtuels, mais on s'en fout. Bah, franchement, moi j'ai pas envie de mettre un casque sur la tête pour caresser un chat en 3D. Par contre, pouvoir faire de la réalité mixte, c'est hyper intéressant. Et ils ont une avance technologique monstrueuse sur les autres, mais ils ne savent pas le vendre. Et ils restent convaincus que leur métavers est une bonne idée. Moi, j'ai jamais cru. J'y crois encore moins aujourd'hui. On a sur Numérama, on a plusieurs articles, on a testé le métavers dans différentes applications. J'ai passé plusieurs heures dans Horizon Worlds, leur métavers, plusieurs heures dans Meta, dans Horizon Workrooms, leur application de télétravail. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est pas des produits que tu as envie d'utiliser. Les gens avec qui j'ai discuté, ils y vont tous par curiosité, mais ils disent « Ouais, je comprends pas trop le concept, ça me plaît pas. » Parce qu'en effet, le concept, pour moi, il est bancal. On n'a pas envie
mais
qu'on se rende
qu'on
chez soi
d'aller se balader dans un monde virtuel. Est-ce qu'on n'en est pas à l'an zéro et encore un brouillon de ce qu'il imagine
si c'est
en
pour
fait.
Du jeu vidéo.
Parce que quand tu discutes, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une autre conf, excuse-moi, je te coupe, Nico. Il avait fait une autre conf un petit peu plus tôt dans l'année où il expliquait les avancées technologiques en fait, de son concept.
Oui, bien sûr.
Et il disait, bon, ben voilà, regardez, on travaille sur des lunettes avec une super qualité d'image, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas les lentilles qui faut. Après, on travaille sur un autre truc qui vous
sur
permet d'avoir...
Les gants haptiques, tu te
sur
souviens,
les gants haptiques.
Il faut un travail
je vous invite à regarder ce truc-là parce que c'est super intéressant.
J'avais assisté, j'avais même pu poser une question à Mark Zuckerberg. À cette
et on voit à quel point il est passionné par ça. On voit à quel point il est habité par ce concept-là. Mais quand on lui dit, bon, c'est quand il dit, c'est pas avant 10 ans.
Mais bien
donc,
sûr,
en fait,
mais
c'est pour ça qu'il faut un vrai travail.
On discute d'un truc qui, pour lui... En fait, il va avoir son chemin de croix, va durer 10 ans en quelque sorte. Parce que dans 10 ans, des ingénieurs hardware lui disent bah, « Écoute, voilà, en théorie, si tout va bien, on aura réduit la taille des lentilles, on aura réduit la taille des batteries, des processeurs, etc. » Ce qui fait que les gens auront peut-être une paire de lunettes qui ressemblera à une paire de lunettes, mais pas avant 10 ans.
Et pour moi, ils sont en train de rendre un vrai service à la technologie, notamment cette technologie optique qui est en train de naître. Et Meta est une entreprise assez fascinante dans cette transformation-là. Le truc, c'est que je reste convaincu que l'idée de Metaverse, et je le disais dans De quoi je me mêle l'année dernière. Pour moi, l'idée de rentrer chez moi le soir, de mettre un casque sur la tête et d'aller me balader dans une prairie virtuelle ne me donne pas envie.
Oui, mais
je suis convaincu que ce n'est pas une bonne idée.
Alors, je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel, même si tu es jeune par rapport encore à moi, mais
tu n'as jamais aimé les prairies virtuelles.
D'abord.
Non,
est-ce que
tu
aimes bien les prairies déjà de base?
J'aime pas trop les prairies.
Voilà, on a tout compris.
Nous, on a été petits, on regardait la petite maison dans la prairie virtuelle.
On adorait. Non, mais l'exemple auquel je pense à chaque fois, quand effectivement on se dit, ouais, les applications du métaverse, caresser un chat, ça sert à rien et tout, c'est les mecs qui sont aujourd'hui, tu vois, tu as des concerts dans Fortnite, les gars sont devant leur ordinateur, ils dansent sous forme d'avatar virtuel avec d'autres gens qui sont derrière leur ordinateur et en train de regarder un concert d'Ariana Grande.
En fait,
donc tu te dis, l'étape d'après, clairement, avec le casque, ce serait juste 10 fois mieux.
Donc, jouer en réseau augmenté en quelque sorte.
Mais s'ils sont prêts à faire ça devant leur ordinateur, pourquoi pas.
Mais je ne suis pas contre le jeu vidéo en réalité virtuelle, je ne suis pas contre un Fortnite, je trouve ça très bien. Moi, je suis contre l'idée qu'Internet va devenir un environnement 3D dans lequel on va se réunir avec un casque sur la tête. J'y crois pas beaucoup. Par contre, qu'Internet devienne un endroit où, au lieu de passer un appel vidéo à travers un écran de téléphone, la personne soit projetée au milieu de ton salon, ouais, ça j'y crois.
Non, mais parce que toi, tu n'es peut-être pas compatible. Mais regarde à l'époque des Tamagotchi.
Non,
il y avait des gens qui restaient des heures et des heures, qui se coupaient du monde simplement pour jouer avec un truc en LCD. Quoi. Et ils s'attachaient à leur Tamagotchi. C'était surréaliste.
Non, mais c'est vrai là-dessus.
On peut tout imaginer. Et là, l'expérience sera sans doute encore plus immersive qu'un Tamagotchi. Et il y a des gens qui tomberont tomberont dans le panneau, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui auront besoin de ça. Et moi, je vais te dire, j'ai joué au ping-pong avec le Quest 2.
Mais... T'as les championnats de France.
Mais c'est de la réalité.
Franchement, essayez-le parce que vraiment, ça sert à rien d'en parler. Mais essayez Eleven, je sais plus quoi.
Eleven All Stars.
Voilà, c'est un jeu de ping-pong. Au début, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais c'est génial.
Vous prenez au jeu et vous jouez. Alors, vous jouez contre un ordinateur, contre un robot, mais vous avez toute la subtilité des lifts, des services. Franchement, moi, j'adore le ping-pong. J'ai joué pendant des années. Et en quelques minutes, j'ai retrouvé la manière de jouer. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que je discutais avec des potes qui me disaient, ben, tu sais quoi? Moi, avant, quand j'étais petit, je jouais avec mon père au ping-pong. Aujourd'hui, on est séparés. J'ai envoyé un masque de VR à mon père qui est à Barcelone, moi je suis à Paris, c'est notre moment où on se retrouve devant une table de ping-pong, parce qu'on peut discuter, etc. Et c'est au-delà d'une partie de ping-pong qui ressemble à une vraie partie de ping-pong, c'est un lien. Et tu vois, je me dis que finalement, on commence à avoir des petits trucs, tu te dis « waouh ». quand même.
Bien sûr, mais est-ce que c'est le métavers?
Mais la technologie,
c'est pas le métavers, c'est de la réalité virtuelle.
Et ça,
le jour où on le met en réalité mixte, en continuant de voir son salon et en ayant la table au milieu du salon, bah voilà, là on atteint pour moi le maximum de ce qu'on peut faire avec un ping-pong en jeu à plusieurs. Mais c'est, il y a une pub là que Facebook passe beaucoup à la télé qui dit oui, demain dans le métavers, on pourra faire plein de choses. Il parle des agriculteurs, il parle des chirurgiens, mais il n'y a aucun exemple dans cette pub qui définit le métavers de Mark Zuckerberg. C'est uniquement de la réalité virtuelle. Donc eux-mêmes, en fait,
c'est une confusion énorme.
Mais franchement, je ne veux pas donner l'impression, autant j'ai été négatif sur Elon Musk, complètement, je l'assume, autant je ne veux pas donner l'impression d'être négatif là, parce que je crois vraiment en réalité mixte. Je suis impatient de voir ce que va faire Apple l'année prochaine, impatient de voir comment Meta va améliorer son casque. Non. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt. Mais je pense que le métavers n'est pas la bonne stratégie marketing.
Dernière chose, quel courage aussi de la part de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que là, malgré tout, il y a une vision qui est très coûteuse, qui est chronologiquement étalée sur des années et des années. S'il se plante, c'est cuit. C'est-à-dire que là,
il peut détruire sa boîte.
Il est obligé de partir de Meta. On ne sait pas ce qui restera de Meta. Pendant ce temps-là, il y a plein de travaux qui ne seront pas mis en avant et Meta ira peut-être à sa perte. Donc vraiment, au niveau stratégique, excusez-moi,
mais
il faut le mettre sur la table.
Mais c'est son seul produit. Hein. C'est son seul produit financier aussi. Il faut voir ça. Tout le reste est gratuit. Le casque, les applis, le store, c'est les rentrées d'argent principales. Ouais. Moi, je vous encourage à aller voir les travaux du Reality Lab de Meta, qui sont d'une folie furieuse, qui sont en avance sur énormément de choses. La robotique et la réalité virtuelle chez Meta, c'est vraiment un travail, mais monumental. Après, là où je suis d'accord, la réalité mixte est beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, on appelle ça métavers. C'est rien de plus que de la réalité virtuelle améliorée. Microsoft, ça fait des années qu'ils sont dedans avec le casque HoloLens, qui est de la réalité mixte, avec un usage. Parce que ce qui manque à tout ça, c'est un usage. On n'a pas envie juste de faire du sport et tout. Mais j'ai testé un peu le Quest Pro moins longtemps que Nico. Mon Dieu, mais la réalité mixte, elle est dingue, quoi.
C'est super.
Le passage de la réalité à la réalité virtuelle.
Parce qu'il y a des caméras couleurs qui font que tu es...
Mais on est vraiment dedans. C'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut.
Ils ont une excellente idée, c'est qu'on voit les bords de sa vision. C'est pas fermé comme la réalité virtuelle. Donc en fait,
on assume le champ de vision.
C'est parfait et c'est super.
Il nous reste 6 minutes, les amis. On a peut-être le temps d'évoquer deux autres petits sujets. Rapidement, tout le bouleversement dans le monde du jeu vidéo, hein, avec les géants qui rachètent tous les studios. On le voit, ça a bougé énormément en 2022. Dernier rachat en date, celui d'Activision par Microsoft, qui peut ne pas se faire, d'ailleurs.
Ça sent un peu le pâté.
Ça sent un peu le pâté.
Tu crois que ça va
faire? Moi, ça va se faire. C'est consultatif. Tous les avis sont consultatifs. Après, c'est juste de dire...
Il y a un procès quand même lancé par la FTC. Hein,
aux États-Unis.
Ça n'a pas terminé en Nvidia par ARM comme l'année dernière.
C'est un peu chaud.
Je crois que la FTC a été induite en erreur par un rapport. Et en fait, ce rapport n'était pas authentique. Donc, c'est possible que ce soit
annulé. Mais non, c'est des... Il faut savoir que ces choses-là, si Microsoft ne décide pas finalement d'arrêter, ça ne s'arrête pas, en fait. Les États-Unis, comme l'Europe, comme le Royaume-Uni, donnent des avis consultatifs par rapport à des points qui sont souvent pas forcément les mêmes, sur lesquels ils demandent des compléments d'information. Ça a été acté au Brésil. Donc, au Brésil, Microsoft peut racheter Activision. Après, si un pays pose problème, c'est juste que ça ne se fera pas. Ça peut être compliqué quand c'est les États-Unis ou l'Europe, je vous l'accorde. Mais ce ne sont que des avis consultatifs.
Après, la question, c'est au-delà du côté réglementaire et juridique, c'est quel impact ça peut avoir sur les joueurs et sur l'innovation. Parce que c'était... Faut voir. L'argument qui était mis en avant par la FTC, je trouve qu'il s'entend aussi, c'est que le fait de créer des... Alors, non pas des monopoles, parce que c'est quand même un secteur concurrentiel, mais des géants, en tout cas oligopolistiques, ou en tout cas... Microsoft qui rachète Activision, il récupère quand même un trésor de guerre absolument dingue.
Call of Duty, évidemment, World of Warcraft, Hearthstone,
Candy Crush sur mobile, donc c'est sur toutes les plateformes et tous les gros jeux. Est-ce que derrière ils vont pas vouloir, alors ils ont dit qu'ils le feraient pas, mais faire des exclusivités, dire finalement il y a certains jeux, ce sera probablement pas le cas avec Call of Duty qui est une vraie vache à lait, mais peut-être avec d'autres jeux qui vont sortir futur, dire bah non, mais les gars,
on garde l'exclus sur Xbox pendant un an ou deux, et après ça arrivera sur PC.
Voilà, PlayStation. C'est pas grave, tant pis pour vous. Et c'est un peu problématique. Donc tu vois, c'est aussi ça le truc. C'est est-ce que ça peut pas avoir quand même des conséquences
néfastes?
Chez Sony,
on doit avoir des sueurs froides.
Sony qui est à l'origine du lobbying pour tenter de faire échouer le deal. Le truc, c'est que les arguments de Sony sont contrebalancés par Microsoft a été très malin. Ils ont signé un accord avec Nintendo qui, je crois, dit que Call of Duty arrivera pendant 10 ans sur Nintendo Switch.
Là où il n'existe pas.
Ils disent à Sony, bah, tiens, tu peux signer aussi si tu veux.
Ouais, mais Call of Duty, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Ouais, voilà, tu vois.
C'est vraiment OK. Ouais, là, Call of Duty, ils le mettront sur toutes les plateformes. Mais les nouvelles franchises qui vont sortir, là, est-ce qu'ils vont les sortir?
Il y a une réalité dans le monde du jeu vidéo, c'est que Sony ne s'est jamais gêné à faire des exclusivités.
Mais oui, c'est le
God of War, Ragnarok, Horizon, tous les jeux Sony. Moi, j'ai une PlayStation plutôt qu'une Xbox pour les exclusives.
Mais bien sûr, c'est ça qui leur pose problème.
Activision crée des nouvelles licences qui sont réservées à Xbox. Bah, si ça appartient à Microsoft, ça appartient à Microsoft. C'est comme ça.
Excusez-moi,
mais Activision, c'est immense. Il y a des dizaines et des dizaines de licences en fait. C'est ça le problème.
Il faut pas toujours licences existantes.
Et Microsoft aussi a Halo qui est une exclue, etc. Ils les ont tous les deux. Mais là, est-ce que ça va pas déséquilibrer en quelque sorte le catalogue de jeux, tu vois? D'autant qu'on voit que Microsoft accélère sur le Xbox Pass. Enfin, on est en plus à la croisée des chemins.
Ça va avantager le Xbox Game Pass. Mais ça, c'est évident.
Mais c'est évident. En fait, le seul argument. Et puis attendez, Activision. C'est ça le truc. Activision, c'est Call of Duty.
Le Game Pass qui est derrière tout ça. Hein.
Oui, bien.
Je veux dire, le Netflix du jeu vidéo, Microsoft n'a pas inventé. Hein.
Ouais. Mais attends, Activision, c'est Call of Duty et c'est tout.
Ouais,
enfin,
vrai,
soyons clairs, il n'y a rien d'autre.
C'est Activision Blizzard. C'est...
Oui, non, mais Activision Blizzard,
les...
enfin,
Blizzard quand même.
Le problème de Sony, c'est Activision, c'est Call of Duty parce que c'est leur jeu le plus vendu à l'année. Mais Microsoft, ils n'ont aucun intérêt stratégique à leur tirer. Parce que l'intérêt, c'est de le mettre dans le Game Pass et d'expliquer aux gens, vous avez le choix entre payer 12 euros et avoir Call of Duty et plein d'autres jeux, ou alors vous achetez votre PS5 et payez votre jeu 80 balles. Mais attendez, jamais de la vie, ils le retireront de la PlayStation.
On arrête, il nous reste 2 minutes 20. J'aimerais qu'on évoque quand même ChatGPT, qui est la dernière claque de l'année. On est d'accord, hein?
Ah ouais, ouais.
On en a reçu quelques-unes, mais celle-là nous a un peu décoiffé. Ouais. Enfin, moi, perso, pas énormément. Mais...
moi non plus.
Anthony, oui, c'est
oui,
vrai,
c'est pour des problèmes capillaires, pour ceux qui nous écoutent.
Exactement.
c'est juste ça.
Voilà, mais au moins, nous, il nous en faut du lourd pour nous décoiffer.
Ah oui,
c'est ça l'intérêt. Donc voilà, ChatGPT, qui est arrivé il y a quelques semaines. Et qui a été, on va dire, la plus grosse claque. Je ne sais pas, tu as dû tester, Nico. Ouais,
c'est dingue. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde avait en tête que les intelligences artificielles étaient condamnées à être bêtes. Dans le sens où on voit Siri, on voit Google Assistant, c'est bien pour lancer de la musique et un minuteur, mais ça s'arrête là. Là, la démonstration d'OpenAI qui est derrière ChatGPT, c'est la preuve qu'on peut avoir un chatbot qui est capable de faire des choses avec une intelligence folle, qui est capable de se rappeler d'une conversation. On peut lui demander d'écrire des articles journalistiques, de suggérer un sommaire, d'écrire un poème, d'écrire un message d'amour. Dans le style 2, on peut lui demander d'imiter des gens, on peut faire plein de choses, et il est capable de tout faire. On peut rebondir sur une question qu'on lui a posée 10 messages plus haut, et il se rappelle du contexte et il peut continuer. Et tout ça, c'est juste bluffant. Et c'est la preuve, en fait, que finalement, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup plus de métiers que ce qu'on pensait.
Ouais,
et il y a énormément de professions où on pensait qu'il fallait coder parfaitement l'algorithme pour reconnaître pile la bonne phrase. Mais en fait, non, parce que grâce au deep learning, grâce à plein de choses aujourd'hui, on est capable de faire des choses miraculeuses.
Mais c'est vrai que ça suscite plein de questions.
Il nous faudrait une émission entière pour en discuter. Mais entre les métiers qui vont disparaître, on a bien vu les programmeurs informatiques qui lui demandaient d'écrire du code à leur place et la machine écrit du code ou de corriger du code. C'est incroyable. Tu demandes d'écrire une disserte de philo, il t'écrit la disserte de philo, de te préparer une interview, il te prépare l'interview. Et derrière, c'est ce que tu disais, c'est très juste, je trouve. C'est la première intelligence artificielle vraiment intelligente, ou en tout cas qui donne vraiment l'impression qu'elle est intelligente.
Oui. Accessible à tout le monde, en fait.
En fait, avec toutes les dérives auxquelles ça va pouvoir donner lieu, c'est-à-dire le fait de pouvoir aussi te prendre d'affection aussi et croire que limite bien c'est sûr. Une personne. Mm-hmm. Tu te souviens, c'était aussi un des événements marquants de cette année pour moi, c'est cet ingénieur de Google, tu sais, qui avait été viré parce qu'il disait que son intelligence artificielle était consciente. Il travaillait sur une IA chez Google, il disait, je suis sûr, elle a pris conscience. Alors que le mec, c'est un ingénieur formé, tu vois. Enfin, le mec, il est dans le cambouis, il est dans les algorithmes. Et même lui, s'est laissé prendre au truc. Et tu te dis, pour le commun des mortels, un truc comme ChatGPT qui va être intégré plein d'autres, dans des applications, etc. C'est vraiment ça.
Ouais.
Mais avec, vois, par exemple, il y a une application en Chine qui cartonne, qui s'appelle Chiao Ice, je sais pas si je le prononce bien, qui est une sorte de chatbot qui doit être moins performant que ChatGPT, mais qui est pas mal non plus, et qui simule une relation amoureuse. Et il y a des gens qui tombent vraiment amoureux, mais vraiment profondément amoureux.
Il y a un super film avec Joaquin Phoenix,
Spike Jonze,
Mais
le mot de la fin pour Melinda.
Elle te renvoie, mais moi j'ai été bluffée par ça. Mais après, il lui manque des traits humains, heureusement. Il lui manque un peu d'humour parce qu'elle est pas très très douée sur le sens de la petite phrase et de l'humour. Mais là où je trouve la dérive, c'est qu'elle renvoie en fait à la personne qui l'utilise ce que la personne a envie d'entendre. Donc en effet, sur les relations, sur l'humain, elle renvoie, et c'est là où on a l'impression qu'elle prend conscience en fait. Elle devient un miroir de soi-même, et je pense que là, les dérives vont être monumentales.
Elle dit beaucoup de bêtises, de mensonges aussi.
Oui. Elle réinvente un peu.
Elle est capable de dire des choses complètement vraies.
Mais ça, c'est 2022, en fait. Elle est saut 2022.
Elle est prête sur Twitter, sur le réseau social d'Elon Musk.
Mais il est clair que l'un des gros sujets aussi de 2023, ça va être l'évolution de ChatGPT.
Oui.
qui va évoluer, parce que les algos vont évoluer. On parle de ChatGPT 4 bientôt qui devra arriver et qui sera encore plus performant.
Et OpenAI est tellement en avance sur tout.
On aura deux, trois trucs à
raconter. Il se murmure que Google a une réponse dans les tuyaux qui est aussi puissante, voire plus intelligente, mais que Google ne veut pas la sortir pour éviter d'avoir des ennuis. Mais enfin, les ingénieurs de Google répondent que Google Assistant est bête parce qu'ils ont décidé de rendre Google Assistant bête.
Ouais, bien sûr.
Donc ça veut dire que les limites vont être vite
mais juste un truc, plugger ça aux assistants vocaux, franchement,
ça va être diabolique.
Ça deviendrait la folie.
C'est monstrueux.
On pourrait avoir des discussions avec une boîte avec un microprocesseur à l'intérieur.
Et après, tu couples ça avec un robot émotionnel, avec des traits d'apparence humaine.
Et après, tu caresses un chat virtuel dans une prairie virtuelle.
Oh là
et
là, je pense que nous avons bouclé cette émission.
Le mot de la fin.
Merci beaucoup à tous les trois, c'était super. Merci. Bien évidemment, comme à chaque fois, à revenir sur, en 52 minutes sur les gros titres d'actualité de l'année 2022, c'est pas évident. On pourrait en parler pendant des heures. Merci à Mélinda, merci Anthony, merci Nico.
Avec plaisir.
Nico qui termine De quoi je me mêle pour l'année, mais qui va la commencer, puisqu'on se retrouvera pour le premier De quoi je me mêle avec Mélinda
au
CES de Las Vegas. Voilà, ça sera ton premier CES.
C'est mon premier CES.
Et là, croyez-moi, ce ne sera pas virtuel tout ça. Ça ne sera pas virtuel, on y sera vraiment pour voir raconter un petit peu les dernières nouveautés de ce grand salon dédié à la tech. Terminez bien cette année, profitez bien, soufflez un peu, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, je crois qu'on en a tous un peu besoin. Et puis on se retrouve donc tout début janvier, premier vendredi de janvier pour De quoi je me mêle depuis le CES. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.